Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour Par les temps qui courent, une nouvelle semaine de conversation qui dure une heure ce soir avec la musicienne Souad Massi.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent,
Marie Richeux, avec Souad Massi.
Oumnia, c'est le souhait en algérien et c'est le titre que vous donnez à votre dernier disque, Souad Massi. Sur la première chanson, votre voix y demande plus de lumière et là, comme partout ailleurs dans ce que vous chantez, les triples sens sont légion. Lorsque vous chantez lumière, il peut autant s'agir d'un vrai rayon, du vrai soleil, que d'une éclaircie politique ou encore de la clarté de pensée d'un poète. De même, lorsque votre chant pleure des séparations ou des regrets, on ne sait jamais s'il s'agit d'une histoire d'amour, d'une enfance de fillette sacrifiée, d'un conte au récit suspendu ou encore de la fin souhaitée d'un régime présidentiel. C'est là la force de vos fables musicales depuis votre premier disque. Ici, elles sont arrangées de guitare, de mandole, de darbouka ou de violon arabo-andalou. Elles prônent la pleine conscience, autant à l'échelle intime et individuelle qu'à l'échelle collective. Votre disque sort sur le label Believe chez Naïve. Bonsoir à vous, Souad Massi. Soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci.
Vous serez en concert à Londres, au Jazz Club, mais vous serez aussi en concert au Garrick, à Ivry-sur-Seine, à Vaux-en-Velin, à Grasse, à Firminy, à Suresnes. On mettra tout ça sur le site. Mais vous étiez au Café de la Danse et j'ai quand même envie de vous demander, c'était comment le Café de la Danse ?
C'était magique. C'était deux belles dates, quand même avec beaucoup de trac pour moi. Ça s'est super bien passé, bien entouré, avec des belles lumières. On était sortis d'une résidence, on avait travaillé pendant plus d'une semaine pour réaliser ces deux dates et je suis très très contente du résultat.
C'est une salle particulière, le Café de la Danse, parce que la proximité est très grande. Même quand on est tout en haut des gradins, on a une capacité de présence, de proximité avec qui chante et qui joue de la musique, qui est assez, qui est toujours très émouvante. C'était quoi comme genre de retrouvailles aussi, j'ai envie de dire presque physique, avec cette assemblée-là?
Alors, moi, j'adore être à proximité des personnes qui viennent me voir. J'aime pas dire les fans. J'ai beaucoup de respect pour eux et j'adore cette proximité et en même temps elle me rend malade parce que c'est beaucoup d'émotions parce que j'arrive à regarder, à voir les visages, les expressions du visage. J'essaye en même temps de les regarder parce que c'est très important et en même temps j'essaye de prendre un petit peu de recul sur scène. C'est pas évident. Dès qu'il y a quelqu'un qui a des larmes aux yeux ou on sent qu'il y a une certaine émotion, j'essaie de ne pas trop le regarder. Voilà, il faut trouver le bon équilibre en fait.
Ça a toujours été le cas? La scène, elle vous a toujours mis dans cet état-là un peu double?
Alors, mais là, c'était, je croyais que j'allais mourir.
Ah oui, plus que d'habitude.
Ah oui, j'avais très très mal au ventre, j'arrivais pas à dormir. C'était dur.
Qu'est-ce qui se joue en fait? Au final, après des années, ça fait longtemps que vous faites de la musique maintenant, Souad Massi.
J'ai toujours eu le trac, en fait. J'ai toujours eu le trac, mais c'est vrai qu'il y a cette proximité qui me rend malade. Et après, je ne sais pas, c'est fou, parce que j'arrive pas à comprendre mon état, parce que je peux être gay, bien, parler de tout et de rien, mais il y a un moment, 15-20 minutes avant de monter sur scène, j'ai l'impression que je vais... affronter, j'essaie de trouver le mot juste, mais c'est pas évident, quelque chose que je maîtrise et que je connais et qui m'échappe en même temps. Je n'arrive pas vraiment à trouver une explication psychologique à cela, mais c'est un bonheur mais qui me rend malade.
Quand vous dites affronter quelque chose que vous maîtrisez et qui vous échappe, il s'agit de votre musique, d'une certaine manière.
Musique, bien sûr, je parle de mes textes et de ma musique. Et je suis entourée par ma famille musicale, parce qu'on est devenu une famille après 15 ans de route ensemble. Mais en même temps, c'est un tel plaisir. Et en même temps, on est sur un fil, en fait.
Et quand vous saluez à la fin, tout ça, ça change? Votre corps est différent? Non, c'est fini?
Non, c'est une heure après. J'attends de redescendre un petit peu.
Et vous arrivez à vous dire, à avoir... Parfois, et certains artistes disent, je suis dans un espèce d'état second qui fait que quand je sors de scène, ça reste comme un songe. Je me souviens de l'heure et demie, ou des deux heures de concert, ou une heure de récital, et c'est un souvenir un peu flou. Comment ça se passe pour vous?
Alors, je vais parler de l'avant de rentrer sur scène, déjà, qui pour moi est primordial. C'est quand j'entends les gens parler, rigoler, ces bruits, que j'arrive pas à décerner. Je les imagine, je les vois de loin, je les regarde, je les observe. Je suis très émue. Je me dis, ces gens-là sont venus pour moi, pour voir le spectacle. Je les imagine chez eux, en train de se préparer, s'organiser pour faire garder leurs enfants. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues du sud et d'ailleurs aussi du Liban, d'Algérie, au Café de la Danse, ils sont venus de loin, d'Angleterre. Ça me touche, ça me met énormément de pression, parce que je me dis, pour ces gens-là, il faut que je me surpasse. Et je pense que c'est ça qui me fatigue un petit peu. C'est ça qui me rend malade. C'est que j'ai l'impression que j'ai pas assez donné à chaque fois.
Je prends un petit peu de temps pour qu'on commence par parler d'eux et par parler d'elles, parce que votre disque, vous leur dédiez.
Oui.
Et bon, évidemment, c'est souvent que les artistes sont attentifs à leur audience, aux personnes qui les écoutent ou qui les regardent. Mais là, on sent que pour que vous le marquiez comme ça, de manière aussi claire sur votre disque, c'est que c'est quelque chose qui est important. Ils ressemblent à quoi, les personnes qui vous suivent depuis 20 ans? Parce que vous les imaginez, puis après vous les voyez, soit de Massy.
Bien sûr.
Alors, ils ont quoi comme tête?
Je leur parle, je passe beaucoup de temps avec eux. Alors moi, je suis pas quelqu'un de prétentieux. Je l'ai jamais été, mais je peux l'être vis-à-vis de mes fans ou les gens qui viennent me voir, parce que c'est des gens qui me ressemblent un petit peu, qui viennent me voir. C'est alors là, j'ai parlé de moi,
bon,
mais
courage.
Je n'aime pas parler de moi, mais c'est difficile. J'ai choisi un métier où je peux pas m'en échapper. Mais sinon, j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est des gens qui sont à l'écoute, qui sont passionnés, qui sont à la recherche de quelque chose à partager. Et quand je prends un peu de temps, je discute avec eux, je découvre que qu'on se ressemble tous. On a vécu des choses communes qui nous lient, la vie de tous les jours. Et on se retrouve dans certaines histoires. Et ce que ces gens me rapportent le plus, c'est que, je vous donne un exemple, quelqu'un, un couple qui avait perdu un enfant, c'était très, très difficile pour eux, et cette personne, je ne peux pas citer le nom, mais voilà, elle avait 18 ans, et c'était une grande fan à moi. Ses parents sont venus me voir après un concert, ils m'ont dit, on n'écoutait jamais musique arabe, entre parenthèses, on ne vous connaissait pas. Et voilà, notre fille nous manque énormément, on vient vous voir. Ça me touche. Et c'est toujours des histoires comme ça. Et ça me permet aussi de continuer. Ma fille, hier, elle m'avait dit, maman, est-ce que tu as toujours de la passion? Parce qu'elle se cherche.
Bonne question.
Oui, elle se cherche, elle ne sait pas quoi faire comme métier. Et je lui dis, tu sais, si je ne suis pas animée par cette passion, j'arrête, je fais autre chose. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas tricher sur scène, je ne pourrais pas tricher avec ces gens.
Donc pas avec vous-même non plus?
Pas du tout, parce que moi, si je mens un petit peu déjà à mon enfant, je suis malade, je ne peux pas.
Je parlais de pleine conscience parce que j'ai l'impression finalement que, en dehors du fait que c'est une chanson qui en parle comme ça un peu littéralement, Souad Massi, l'album il est un peu sur ce fil-là, comme une sorte de face-à-face assez lucide, des manières de se regarder dans le miroir. Je le disais dans l'introduction, vous avez un art de la métaphore. Moi, j'ai beaucoup pensé à Jean de La Fontaine en fait en écoutant ce disque. Mm-hmm. Je me suis dit, c'est fou finalement, c'est ça qu'elle fait, des fables comme La Fontaine. Mais même si vous avez cet art du détour, j'ai l'impression que ce disque-là, vous vous dites, il va falloir qu'on soit tous conscients. Et de nous-mêmes, très individuellement, et de nous-mêmes, un peu plus collectivement. Est-ce que c'est le disque de ça? Un temps pour ça?
C'est le disque de... Du moment où il faut dire la vérité. De la maturité aussi. Et... J'ai écrit comme j'ai senti les choses, sans frein, j'ai essayé de briser les faux murs que j'ai construits moi-même en fait, parce que le poids de certaines traditions, où je me suis dépassée un petit peu dans l'écriture parce que j'ai plus peur. Et j'ai l'âge que j'ai et j'ai envie de parler d'amour librement et dénoncer aussi certaines personnes, comme dans la chanson Pleine Conscience, où je critique le gouvernement qui est en place, qui nous a menti pendant des années, qui a mené l'Algérie au chaos, parce qu'on est vraiment au port du chaos. Et voilà, je le fais avec pleine conscience et j'assume mes textes et mes idées.
C'était quoi comme période d'écriture? C'était une période, cette pleine conscience, elle était calme ou elle était difficile? Ou les deux, parfois ça peut être très calme et très difficile.
Si je peux me résumer, moi je suis comme ça en fait. J'ai jamais connu de moment calme dans ma vie. Et c'était un état d'esprit assez spécial, parce que moi je suis de nature calme, mais je peux dire des choses très très dures. D'ailleurs, j'avais un problème avec mes sœurs, parce que quand on s'engueulait, elles résistaient pas longtemps en face de moi. Mais bon, maintenant j'ai changé, j'ai évolué sur certains sujets. J'ai écrit dans un état, je sais pas si on peut le qualifier comme ça, un peu second. Parce que plusieurs fois, j'ai pris un peu de temps pour me relire et pour comprendre ce que j'écrivais, en fait. Et je crois que j'ai tout mis dans cet album. Je me suis mise à nu.
Bon, on y va alors.
قبل ما نمشي خلاص عيد نتمنى نعيش حاجة جديدة والجرح يبرى خلاص نويت ويا درا تتسقم لي ليا راه كل شي مني يهرب ويا درا تلاقينا ليا انت في الشرق وانا في الغرب منصبني حمامة ونجيك عند الطاقة قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة منصبني نكون نسمة ونجيك مع العشية قلبك تعرفني حد ما حس بيا كتمة في قلبي كلام مرتب
كلام مرتب كتمة في قلبي
اللي يعرف يقرا ما بين السطور والوقت يجري مني ويهرب
يجري مني الوقت ويهرب
كل يوم بينا يعلى الصور ويا درا تتسقم لي ليا راه كل شي مني يهرب ويا درا تلاقينا ليا انت في الشرق وانا في الغرب وصبني حمامه
نجيك عند الطاقة قلبك تعرفني راني ليك مشتاقة صابني نكون نسمع نجيك مع العشية قلبك تعرفني حد ما حس بيا
On va profiter que la musique court encore sous Edmassi pour que vous nous parliez des instruments, puisque vous co-signez les arrangements, et je disais que ces fables musicales, comme je les appelais pour ce disque-là, étaient arrangées d'une particulière façon. Est-ce que vous nous diriez un peu ce qu'on a entendu à l'instant ?
Alors,
le titre, c'était Yadra.
Yadra, qui c'est ? J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré un excellent musicien qui s'appelle Mokran Adlani, qui joue au violon. Au début, je ne pensais pas intégrer le violon dans mon répertoire. Mais comme j'avais rencontré un musicien, c'était en Tunisie, qui jouait formidablement bien. Et ça m'avait inspirée. Et j'avais vraiment envie d'essayer le violon. Et quand on a enregistré, c'était magique. J'ai beaucoup aimé les sons, les sonorités, cette fragilité aussi qu'on trouve... dans cet instrument, se marie à merveille avec ma musique.
Là, on entendait en effet dans ce dernier solo la manière dont Yadra se termine. Vous parlez de fragilité, mais il y a aussi une sorte de rugosité, de manière d'être là, et de pas être là en force d'une certaine manière. Exactement.
Ouais.
Et dans cette chanson-là, vous dites que vous gardez les mots clairs pour celui qui sait lire entre les lignes. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression que il y avait ça pendant toutes les chansons, qu'il fallait tout le temps lire entre les lignes.
C'est vrai.
Tout le temps.
Je vous donnais un exemple quand j'avais écrit plein de cours. Conscience, j'avais écrite...
Qui est une autre chanson.
Oui, qui est une autre chanson, pardon. Et je l'ai donnée à mon frère, qui est Hassan Massi, qui est compositeur aussi. Et je lui dis, on va faire la musique de ce texte. Il le lit comme ça. Il me dit... tu veux rentrer en prison ? J'ai dit, pourquoi ? Ça m'a fait plaisir, parce qu'il avait compris dès la première lecture... Il m'a dit, ok, il y a plein de métaphores, mais voilà, tu l'as écrite quand ? Je lui ai dit, hier soir. Il dit, d'accord. J'ai écrit d'une manière simple, mais c'est vrai que sur cet album, je ne sais pas si c'est la maturité ou l'âge, ou la pleine conscience, entre parenthèses, mais l'écriture est venue comme ça. Et maintenant, c'est pour moi un seuil et je veux pas revenir en arrière. C'est-à-dire, si j'écris pas plus de la même façon, j'arrête.
Et vous avez l'impression que vous-même, vous n'êtes que au début du déchiffrage de ce que vous avez écrit? Parce que moi, il y a vraiment des chansons, je me disais, elles peuvent vraiment s'adresser avec ce même texte à 4 personnes ou 5 personnes différentes.
Qui peuvent comprendre de différentes façons. C'est vrai, j'ai fait le test en fait. Même moi, j'avais travaillé avec un traducteur qui avait traduit la première fois. Et je lui dis, excuse-moi, tu sais, là je voulais dire ça et ça. Il me dit, d'accord. Et un autre journaliste qui avait traduit, alors qu'ils ont un très bon niveau et en arabe et en français. Et même moi, je réfléchis à un moment donné, je dis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça?
La chanson qu'on vient d'entendre, en tout cas, vous le traduisez dans le livret « Qui sait ?» avec un point d'interrogation, qui dit aussi cette espèce d'état second, d'inquiétude. C'est un album qui interroge beaucoup, qui se demande comment ça va se passer, comment va être le temps futur. C'est des questions que vous adressez à vous, que vous adressez à qui, d'une certaine manière, Souad Massi ?
Ben, en premier lieu à moi, parce que j'étais arrivée à un moment dans ma vie où je cherchais un chemin, parce que j'étais perdue et seule. Et après, c'est par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce que ça m'angoisse, je ne sais pas où on va. Il y a des guerres un peu partout, de la violence. Moi, ça m'angoisse quand je vois les informations, ce qui se passe maintenant. J'ai peur pour nos enfants, j'ai peur pour l'avenir de cette planète. Et j'ai l'impression que parfois, qu'on est des robots et qu'on est conditionnés. Et voilà, on vit le jour au jour. Ça m'angoisse.
Et la musique vous sort de ça ou au contraire la musique vous permet de creuser cet endroit d'inquiétude et d'angoisse?
La musique, c'est mon outil qui me permet de traduire tout ça. Ce qui me permet de m'évader, c'est la poésie. Ça a toujours été la poésie.
Vous en lisez beaucoup?
Je lisais beaucoup, presque tous les jours, tous les soirs. Et là, j'aimerais bien revenir à ça parce que ça me permettait vraiment de m'évader.
Vous avez toujours lu beaucoup de poésie?
Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, pas que de la poésie, mais la poésie, ça me permettait de m'évader, de créer un monde imaginaire où il n'y avait que beauté et douceur, on va dire.
Parce que vous en manquiez?
J'en manquais, oui, parce que je vivais dans un milieu où il était interdit de rêver. J'étais adolescente en Algérie et où les rêves étaient interdits.
Et où pourtant la lecture, y compris la lecture de poèmes d'amour, est extrêmement répandue. Le peuple algérien a toujours énormément lu et dit beaucoup de poèmes, y compris des poèmes d'amour, mais qui manie la métaphore aussi bien que vous le faites, Swad Massi.
Merci, parce qu'on n'avait pas le choix. De toute façon, les poètes arabes étaient connus pour ça. C'était où on critiquait un roi, où on avait des poèmes très osés d'amour. On était obligés d'utiliser des métaphores, sinon ils risquaient leur tête.
On va écouter un que vous connaissez un peu.
C'est une chanson d'amour il y a une autre dimension que l'amour lui-même. Rien que du ciel ordinaire, du bleu comme on en voit partout, des choses, je sais pas. Je t'envoie des journées entières, des chats posés sur les genoux, des musiques légères, une source entre deux cailloux. Et donc ce linge blanc accroché aux barrières. Alors j'ai pas le capot d'astratin. Et voilà tout ce que je sais faire. Du vent dans des coffres en bambou, des pains de ciel pour mettre à tes paupières et d'autres pour pendre à ton cou. Dum 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 dum. C'est rien que du ciel ordinaire, du bleu comme on en voit partout. Mais j'y ai mis tout mon savoir-faire et toute notre histoire en dessous. Dum, 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 dum. Tu vois, c'est presque rien. Bon, j'avais un édifice un peu bancal, je savais que c'était une chanson d'amour, bon, un peu jolie, un peu tendre, mais bon, un peu ordinaire quand même. C'était juste quelqu'un qui déclarait trop d'amour à une espèce de fausse modestie en disant, mais bon. Et après cette histoire des années de guerre, comme il y a tellement de gens qui m'écrivent aussi, malgré tout, sur l'Algérie ou sur l'ex-Yougoslavie, ou... Alors c'est vrai que ça me hante quand même de parler, bon j'en parle pas vraiment franchement, mais tout ce que je peux faire moi par rapport à ces atrocités, c'est juste de faire des petites chansons, essayer de diffuser des choses positives et puis de rendre un minimum d'espoir.
Presque rien, c'est ça que chantait Francis Cabrel il y a 20 ans dans cet archive Souad Massi. C'est quelqu'un qui s'est trouvé sur votre chemin, Francis Cabrel, et il parle ici de la fragilité de l'édifice d'une chanson d'amour. Il trouvait qu'au départ c'était un peu bancal. Voilà, cette personne qui dit que c'est presque rien, alors qu'en fait il sait très bien qu'il est en train de déclarer tout l'amour du monde. Tout à l'heure vous disiez qu'avec ce disque-là, vous vous sentiez en mesure de chanter l'amour comme vous l'avez jamais fait.
Oui, c'est vrai. Je voulais juste dire, c'est moi. C'est moi qui je me suis retrouvée dans son chemin, pas le contraire. Je salue.
C'est toujours
Cabrel.
Un peu les deux.
Non, je suis désolée.
Vous vous êtes trouvée sur le chemin de Cabrel. Cabrel s'est trouvé sur votre chemin.
Non, mais c'est tellement un immense artiste que j'adore. J'adore sa voix. C'est sa belle plume. Qu'est-ce que je peux dire
sur les chansons d'amour? Est-ce que lui, il dit cette grande chanson qui est presque rien, qui est vraiment une très belle chanson d'amour? Est-ce que finalement, les chansons d'amour, pour vous, c'est pareil? Vous avez toujours l'impression que c'était un peu bancal au départ?
Je ne sais pas. J'ai une autre façon de m'approprier les mots quand je parle d'amour. J'ai pas écrit autant sur l'amour. Je pense que c'est ma première vraie déclaration.
Et c'est facile ou c'est pas facile d'écrire l'amour?
Pour moi, en tout cas, c'est tous les thèmes, ça n'a pas été facile de les écrire parce que on se livre en fait, on partage, on se met à nu. Et j'ai appris à l'accepter en fait. Au début, c'était pas évident pour moi.
Pourtant, vous en avez composé des chansons et vous avez écrit des textes.
Bien sûr, mais après, il fallait comprendre tout ce qui suit. C'est pourquoi on écrit, pourquoi on est sur scène. J'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes qui m'ont fait accepter ça, parce qu'au début, j'hésitais beaucoup pour chanter. J'étais très, très timide.
Alors, comment vous avez trouvé la force d'y aller?
J'étais encouragée par mes frères, par ma mère, par mes amis, par des amis qui travaillaient à la radio notamment. Et sinon, je serais pas allée toute seule.
Qui avait deviné quoi? Votre voix? Votre talent?
En fait, moi j'étais avec des amis à moi. On est passé à la radio et je devais juste les accompagner. Et ils m'ont demandé de chanter une chanson parce qu'ils étaient programmés ailleurs. Je chante Raoui.
Raoui, il faut dire, hein, c'est quand même un immense succès d'un disque.
Merci,
qui porte
oui, mais moi, je,
le
je,
même titre.
Je venais juste
il y a combien de temps que ça nous rajeunisse un peu?
Plus 20 ans. Et cette chanson, elle passait en boucle à la radio et tout le monde voulait savoir qui était l'auteur et qui l'a chanté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, en fait.
Et quoi, mais vous avez chanté et personne ne savait que c'était vous?
Bien sûr, moi, chez moi, personne ne savait que c'était... Bon, ma mère, elle connaissait ma chanson, mais sinon, mon père ne savait pas. Je me rappelle, j'avais mon oncle qui me disait, parce qu'il jouait à la guitare, il me disait, il y a une fille là qui passe à la radio, j'adore sa voix, et c'était moi. Je savais pas si je devais le dire ou pas, je comprenais pas ce qui se passait, voilà.
Cette chanson-là, dans mes souvenirs, mais ils sont un peu vieux aussi,
ah oui.
Elle dit « raconte ».
Oui.
C'est ça. Hein,
raconte une histoire.
Raconte-moi une histoire.
Commence par aller tuer une fois. Ne fais pas attention à mon âge parce qu'on a besoin de rêver à tous les âges.
C'est quelque chose que vous avez beaucoup demandé, Souad Massi, qu'on vous raconte des histoires?
C'est une tradition, malheureusement, qui est en train de disparaître parce qu'on a grandi avec les histoires, avec la grand-mère, avec la maman, la tante, qui on regardait pas la télé, qui nous racontait. On a une tradition orale de conteurs qui nous racontaient des histoires et qu'on a perdu. Même moi, je pensais que j'allais raconter plein d'histoires à mes enfants, mais je l'ai fait quand elles étaient petites. Je leur racontais des petites histoires, mais plus maintenant. Alors que moi, j'étais grande et je réclamais ces histoires.
Vous avez été nourrie de ça?
Oui, j'étais nourrie de belles histoires ça nous a beaucoup rapprochés. Ça a créé des liens très forts avec ma maman, mes frères et sœurs.
Quand cette chanson dit « Ne fais pas attention à l'âge que j'ai », c'est parce qu'on vous racontait des histoires en fonction de l'âge que vous aviez, éventuellement de votre genre aussi, de qui vous étiez, Souad Massi. On raconte pas les histoires à tout le monde, les mêmes?
Il y a des histoires qui font peur, mais je rigole. Mais c'est vrai, ça existe. C'est que j'ai 17 ans de différence avec ma petite sœur. Et ma maman racontait l'histoire à ma petite sœur. Et moi, j'essayais de me rapprocher discrètement, parce que j'étais âgée, plus âgée. J'étais une jeune fille. Et pour écouter ces histoires, j'avais honte de demander à ma mère de continuer. Parce que je voulais savoir la suite.
À tous les âges.
Oui, c'est ça.
On va rester en Algérie, mais on va faire un saut dans le temps et dans le temps contemporain.
qu'on est important, qu'on a une voix à faire entendre. On est unis et notre diversité, c'est notre force. C'est-à-dire, on ne veut pas que le pays se divise comme ils veulent nous diviser. C'est-à-dire, quand on parle de Kabyle, quand on parle de Chaoui, quand on parle de toutes les diversités, c'est une force en fait qu'on a.
Ils veulent détruire le pays, tout simplement.
Ils veulent le voler en fait, ils veulent voler toute la richesse qu'il y a, toute la beauté qu'il y a en Algérie. On a tellement d'artistes, on a tellement de choses à montrer et qu'ils ne nous donnent pas la chance de le faire. Mais maintenant, on est là pour faire entendre notre voix.
Le peuple algérien dort, mais en fait, non, on est très conscient, on est cultivé, on sait ce qui se passe. Et là, on exprime notre avis à haute voix pour le changement, pour une Algérie meilleure.
Pourquoi tout le monde fait comme ça?
Non, je sais, par rapport à la clinique, il y a des malades.
Ah, c'est pour ça.
Ceci, du civisme.
Exactement, Sylvia.
Ouais, je suis fière, j'ai eu des larmes. C'est cette force, parce que c'est facile de casser, mais de rester homme et ne pas casser le pays, c'est une force. Nous sommes un peuple fort, j'estime. Je suis impressionnée.
Vous avez quel âge ?
73 ans. Je suis algéroise.
Et vous avez travaillé ici à Algérie ?
Je suis chirurgienne dentiste, oui. Non, je suis à la retraite maintenant. J'ai travaillé 30 ans. Maintenant, je suis à la retraite. Je fais beaucoup de sport. Je m'occupe de mes petits-enfants. J'ai 9 petits-enfants.
Vous vous souvenez de la date de la dernière fois que vous avez manifesté ?
Jour de l'indépendance, en 62. J'avais 15 ans peut-être, 15-16 ans.
Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vouliez sortir plus que
parce
d'autres?
On en a marre quand même. Nous sommes un pays riche, troisième producteur de pétrole. Et ceux qui nous gouvernent, moi je n'en veux pas Bouteflika. Il me fait de la peine Bouteflika. Mais ceux qui le mettent en trophée comme ça, ça me dégoûte. C'est des lâches. Même si je vais en prison, je le dis, c'est des lâches. Je pense qu'on va gagner. Parce que quand un peuple se soulève, le peuple c'est le plus fort. Non, on est fort. J'ai de l'espoir, beaucoup d'espoir.
Bonne chance pour la soirée.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Swad Massie.
Les you-you des manifestantes et des manifestants, Swad Massi, 14 mars 2019. Un reportage diffusé dans Les Pieds sur Terre et signé Adila Benedjaizou. On l'entend dans la voix de cette femme-là qui dit « Nous sommes importants, on est importants, ils veulent nous diviser, mais nous sommes dans la rue. » Et je ne suis pas sortie dans la rue depuis 1962, cette femme, dernière fois qu'elle était dans la rue. C'était pour l'indépendance de l'Algérie. Évidemment, dans ce disque-là, c'est difficile de ne pas entendre des adresses à ce qui se passe là-bas, des manières aussi de prendre position depuis l'endroit d'où vous chantez, Swad Massi, entre les lignes évidemment, mais quand même. Quel impact a eu cette situation-là sur la composition et l'écriture de ce disque?
D'abord, je voudrais vous remercier parce que vous faites l'écho de ce qui se passe en Algérie, on en a besoin. On a besoin que la presse et que les journalistes en parlent parce qu'on se sent un peu livré à nous-mêmes, même si tout le monde en parle. Je suis concernée par tout ce qui se passe en Algérie. J'ai vécu là-bas, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 25 ans. Je connais les problèmes du citoyen algérien, de la citoyenne algérienne. Sous soulèvement est naturel. Et je pouvais pas écrire sur autre chose. Une artiste, j'ai le devoir et la responsabilité de dénoncer et de mettre en lumière ce qui se passe en Algérie. Avec mes mots, avec mes armes qui sont la musique et les paroles, j'ai essayé de sensibiliser les gens et de raconter ce qui se passe en Algérie, de dénoncer le gouvernement qui est en place, de soutenir le peuple algérien.
Vous jouez là-bas parfois ?
Non, pas du tout.
Par choix ?
Je suis une artiste qui n'est pas très bien la bienvenue là, en Algérie à cause de mes textes.
Donc vous n'avez pas la possibilité de le faire ?
Pour le moment, non. Mais heureusement qu'il y a que ma musique est diffusée via les réseaux sociaux.
Vous savez si vous êtes écoutée là-bas ?
Ah ça, je le sais, bien sûr. J'ai beaucoup de fans, j'échange beaucoup avec eux et il n'y a pas de problème. Ouais. Le message passe.
Et votre message à vous, il est renforcé par le fait d'avoir ce recul-là, le fait de vivre un peu loin de ce qui se passe. Est-ce que vous avez l'impression que votre message, il est plus fort, il est plus clair, il a peut-être plus de poids ?
Je me sens pas loin, en fait. Mon esprit est en Algérie. Je me renseigne, je suis en contact avec ma famille ou des amis, je lis la presse. Je pense que je suis plus... j'ai plus d'impact et je suis plus... je peux dire plus de choses, bien sûr, le fait d'être en France. J'aurais pas ni les médias en Algérie, ni des espaces où j'aurais pu m'exprimer.
Mais pourtant, vous n'êtes pas non plus dans la rue.
Quand j'ai été à République pour manifester, pour dire ce que je pense. Après, on peut ne pas être dans les rues et dénoncer et toucher des gens ou la presse.
D'ailleurs, à ce propos, vous mettez en musique un poème de Mahmoud Darwish qui, par la poésie, entendait bien pouvoir donner sa position politique sur la situation de son pays, sur ce qu'il pensait de la situation de la Palestine.
C'est un poète que j'ai toujours aimé. J'adorais j'aime sa façon d'écrire. Il m'a toujours impressionnée quand j'étais jeune. Je ne comprenais pas tout ce qu'il racontait parce que mes parents sont francophones. Et avec le temps, j'ai eu la chance de lire ses recueils et j'ai découvert vraiment un génie moderne. Et avec aussi, qui écrit beaucoup aussi, avec des métaphores aussi, ce que j'adore chez lui.
Puisque vous parlez de langue, justement, on va écouter Rachid Tah.
Quel lien vous avez finalement avec à la fois avec l'Algérie, avec la langue française? Comment on peut définir ça? On pourrait définir.
Est-ce qu'on peut dire qu'on a des liens? Parce qu'on a des liens, parce que ça m'appelle les menottes quand on dit qu'on a des liens. Donc oui. J'ai aucun lien ni avec aucune langue. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir un rapport. C'est un rapport conflictuel éternellement. C'est-à-dire la langue française, c'est la langue qui me qui fait que je dois l'utiliser parce que ça m'a permis de voir des choses et de grandir. Et puis la langue algérienne, parce que je ne dis pas arabe, parce que c'est plutôt la langue derja, c'est-à-dire la langue qu'on parle quotidiennement, parce que moi je ne parle pas l'arabe.
Comme un dialecte, oui.
Non, ce n'est pas un dialecte.
C'est une langue.
Non, je ne suis pas d'accord. Non. La langue algérienne, c'est une langue à part. La langue arabe, c'est la langue du colon. C'est-à-dire qu'à la limite, la langue arabe, pour moi, la langue française, viennent du même... Elles ont les mêmes racines.
Je ne comprends pas la langue arabe, la langue du coup.
L'arabe, pour moi, c'est la langue qui m'a colonisé. C'est une langue que je ne comprends pas. Ouais. Quand je regarde les informations, j'écoute les informations en arabe, ou j'écoute des chanteurs arabes comme Mkhaltoum ou Fadlatra, je ne comprends strictement rien. Donc, comme au début, la langue française, je ne comprenais pas quand j'écoutais... Jacques Brel, où j'écoutais Georges Brassens et tout, il fallait que je travaille. C'est comme si je faisais de la restauration, c'est comme si je tenais un magasin d'antiquité, donc je retrouve des vieux tableaux puis je les dépoussière. Donc voilà, c'est mon rôle, c'est un peu ça.
نبكي بصح وقفة ولازم نمشي والجرح في صدري كبر وزوج حمامات فوق الكتاب خمم والفكار جارحة باش نقابل الرياح القاسحة وداخلي رعود ومطر وغير من ربي اللي نخاف شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا قبل جانا نكون انتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا ما نقبلش انا نكون انتي وانتي انا خبيت سري في بير وعليت عليه الحيطان ما ندير ثقة في الغير ولا يخوف هاد زمان حرب حروب الدنيا وشفت الموت بين عينيا ودخلي رعود ومطر وغير من ربي اللي نخاف شكون اللي راني نشوف المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا ما نقبلش انا نكون انتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا مش انا نكون انتي وانتي انا نكون انايا ما نقبلش انا نكون انتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا ما نقبلش انا نكون انتي
Elle est difficile cette chanson Swed Massi, moi je la trouve difficile en tout cas.
À chanter Wakfa. Aussi.
Ah bon, peut-être elle est difficile à chanter. Ouais. Mais c'est un face-à-face douloureux d'une femme qui dit qu'elle pleure, qu'elle est debout, qu'elle se voit dans le reflet et que c'est difficile pour elle de penser que le reflet qu'elle aperçoit dans le miroir, c'est elle. Chanson qu'on imagine pouvoir être la voix de plein de femmes.
Tout à fait.
Plein de femmes, de femmes qui peuvent pleurer debout devant un miroir et se dire que c'est pas facile à soutenir ce reflet pour plein de raisons différentes. Mmh. C'est vraiment la force, je pense, de cette chanson-là qui est. Ça peut être une sorte d'hymne des moments difficiles.
Je pense que vous avez bien résumé la chanson. Toute femme peut se retrouver dans cette chanson. Moi, j'ai écrit sur moi, sur quelque chose que j'ai vécu. J'avais un miroir en fait, un grand miroir accroché à côté de la porte d'entrée et je l'évitais à chaque fois en fait. Je l'évitais parce que je n'aimais pas ce que me reflétait le miroir et j'arrivais pas à l'enlever parce qu'il était très lourd et je faisais tout pour ne pas me regarder dans ce miroir. Parce que j'ai eu des moments où je me suis sentie vulnérable et j'aime pas ce sentiment. Je me suis battue toute ma vie et on me qualifiait toujours de femme forte et courageuse. Je voulais ressembler à ma mère, à ma grand-mère. Et je m'interdisais cette faiblesse. Et parce que je devais rester debout. Et voilà, j'ai écrit cette chanson. Et aussi, je pensais à toutes les femmes qui ont honte parfois d'elles-mêmes, parce que, alors qu'elles sont victimes, on va dire, mais et qui restent, qui n'ont pas le choix, parce que pour les gens qu'elles aiment, en fait, rester debout. On nous a appris ça et c'est resté.
Alors qu'il y a aussi dans cette chanson l'idée que peut-être la vulnérabilité peut être une force et qu'on peut rester debout peut-être, mais pleurer. Ce qui est difficile dans les paroles de cette chanson, c'est que les pensées de cette femme sont des murs, que son secret est un mur, que finalement ce qu'elle n'arrive pas à garder dans le miroir, c'est probablement le secret qu'elle enferme trop fort. Ouais. Et bon, voilà, vous ne résolvez pas la question dans la chanson, mais c'est, vous disiez que c'était difficile à chanter, on veut bien vous croire.
Ah, c'était très très difficile. En fait, j'arrivais pas à la chanter. Je pense que j'ai demandé à tout le monde de partir, à part l'ingénieur de son, qui était obligé de rester. Et j'ai mis, je sais pas, toute l'après-midi, j'ai dû sortir pour pouvoir la chanter. En fait, le moment est venu pour moi pour chanter, pour enregistrer. Vous savez comment ça se passe, on commence par la musique, on fait un petit arrangement. Et au moment où j'allais chanter, eh bien, je n'arrivais pas, c'est fou. J'ai réussi à tout mettre sur un papier, mais j'arrivais pas à le sortir. Et heureusement que j'ai pu chanter plus tard. C'était très difficile pour moi.
Et il y a un avant et après avoir chanté ça?
J'ai réussi à prendre un petit peu de recul, en fait, maintenant, parce que c'est une chanson dont j'avais peur de chanter sur scène, mais finalement, ça se passe bien. J'ai réussi à prendre un peu de distance avec certains textes.
Juste avant cette chanson, on entendait la voix de Feu, votre collègue chanteur à Chitaha, en 2007. Il expliquait à Colette Felous que l'algérien n'est pas un dialecte et que pour lui c'est une langue à part entière et qu'il considère, c'est peut-être la première fois que j'entendais les choses formulées ainsi, que la langue arabe, au même titre que la langue française, est une langue du colon. Pour lui, ce n'est pas rien de dire cela, différenciant la langue qu'il parle, l'algérien, l'arabe et le français. Vous qui naviguez, qui chantait même dans un dialecte égyptien dans ce disque-là. Vous avez quoi comme rapport avec toutes ces langues-là, Souad Massi?
Moi, j'adore toutes les langues. Je pense que c'est une très belle richesse de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues. C'est un signe d'ouverture, c'est un signe de savoir, de culture. Moi, je suis impressionnée quand quelqu'un parle une langue que je connais pas. Je lui demande de m'apprendre quelques mots. Vraiment, j'adore toutes les sonorités et c'est une vraie richesse. Le français, c'est une très belle langue. L'arabe classique, c'est une très belle langue. Le kabyle, c'est une très belle langue. L'anglais, pareil.
Et l'algérien.
Et je comprends. Et
ou
je
l'algérois,
comprends ce que
parce
dit,
qu'il y a même des habitants d'Alger qui sûr. Disent qu'ils parlent l'algérois et
oui,
même pas l'algérien.
Oui, je comprends ce qu'il veut dire, Rachid, que j'ai eu l'occasion de connaître parce qu'on a partagé quelques scènes ensemble. C'est un grand artiste, malheureusement, qui est parti tôt. Et un grand artiste qui était très très cultivé. Et chaque fois, c'était un bonheur pour moi de parler avec lui. Je le comprends. On a eu de faux problèmes d'identité, en fait, en Algérie. On est des Maghrébins et on nous a toujours voulu nous faire comprendre qu'on était arabes, alors que les Arabes, c'est ceux qui viennent d'Arabie. Et on est des Maghrébins, on a notre langue, on avait notre langue qui est le berbère, et c'est vrai que on a été arabisés par l'islam. Et après, on peut pas contester. Il y a l'histoire qui est là.
Donc c'est pas exactement des faux problèmes d'identité. Ce sont des
non,
problèmes
c'est ce qu'on
posés
nous a fait
par l'histoire.
Après, en Algérie, entre les Kabyles et les Arabes, alors que voilà, on est des Algériens. On a le passé qu'on a eu, mais il faut pas occulter quand même nos racines et surtout la culture berbère.
Et on connaît les difficultés qu'ont eues les poètes, les chanteurs ou les petits-enfants de chanter la langue de leurs parents, de leurs grands-parents ou simplement de parler berbère dans une cour de récréation. C'est une violence sans nom que de n'avoir pas pu parler pendant très longtemps cette langue-là.
C'était frustrant pour les Kabyles de ne pas pouvoir s'exprimer, où la culture kabyle n'était pas reconnue. Il n'y a pas si longtemps que on retrouve des journalistes qui s'expriment en langue berbère et qu'on puisse s'exprimer et que cette culture soit un petit peu, qu'il y ait un peu de reconnaissance. On a beaucoup souffert de ça.
Mais vous circulez aussi bien du berbère à l'arabe littéral, à l'égyptien, au français avec la même joie.
C'est ce que je disais, c'est vraiment pour moi c'est une vraie richesse. J'ai envie vraiment d'aller à l'essentiel dans ma vie. Je respecte toutes ces traditions, ces langues. Et le plus important, c'est le contenu, c'est l'information qu'on donne. Et le plus important aussi, c'est d'aller vers l'autre. D'être curieux, d'apprendre de l'autre, et qu'importe la langue qu'on utilise.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous en choisissez une plutôt qu'une autre ?
J'écris d'une façon très spontanée, bien sûr, en dialecte algérien, on va dire.
Et vous dites ça avec un immense sourire tel que vous n'avez pas souri depuis le début de cet entretien.
Non, parce que comme j'avais j'ai travaillé sur mon album El Motek El Limoun, où je faisais rendre hommage à la poésie arabe, c'était en arabe littéraire, j'ai dû faire des recherches, des études pour ne pas me tromper dans la prononciation et pour faire un travail sur les poètes. Là, quand c'est en dialecte algérien, je suis plus à l'aise. Ça m'a pas pris autant de temps, par exemple.
Mais est-ce qu'il y a un lien avec le fait que vous chantez en dialecte algérien et que vous dites n'avoir chanté jamais autant de choses aussi personnelles, Souad Massi ?
Mais en dialecte algérien, j'écris des textes qui me sont très personnels. Bien sûr, je m'inspire surtout sur cet album ou même mes autres albums, je me suis inspirée de mon vécu et de toutes les choses qui ont pu me toucher autour de moi. Alors que si j'écris sur la poésie, c'est d'autres auteurs. J'ai plus de facilité à chanter les textes d'autres personnes que les miens.
Eh ben, vous tombez bien. On va écouter une archive de Marie-Paul Bell.
Quand quelque chose dans la vie me révolte, ou quand j'ai une grande émotion, ou si j'ai un chagrin d'amour, ou si j'ai une pensée un peu originale, et j'ai un petit cahier comme ça où je note des idées, ou même quand j'ai des idées farfelues, et je peux écrire un début de chanson avec un couplet, un refrain, des vers, ou alors une idée en disant « Tiens, j'aimerais bien chanter une chanson qui raconterait telle histoire ou qui parlerait de tel sujet, etc. » Et donc après, quand on faisait des réunions de travail avec Michel Grisolia ou Françoise Maïjouris, ou même aujourd'hui avec Dominique Valls ou Isabelle Maïraud, je leur parle de mes envies de chanter certains sujets, ou je leur demande carrément, j'aimerais bien chanter une chanson qui traite de la violence faite aux femmes, ou une chanson qui traite de l'homosexualité. J'avais commencé à écrire une chanson qui parlait de maman, sur l'impromptu de Schubert, j'ai écrit la moitié de la chanson, et puis après, moi, mon problème, c'est que j'ai tout dit dans le début.
C'est la voix de Marie-Paul Bell dans les entretiens à voix nue diffusé en 2012 sur France Culture, et il se trouve qu'un titre de votre album Souad Massi est signé Marie-Paul Bell et Françoise Mallet-Joris. Comment il est arrivé jusqu'à vous, ce titre-là ?
Par un pur hasard, j'étais assise à côté de Yann, qui est mon ingénieur de son. Je lui ai demandé sur quoi il travaillait en ce moment. Il m'a dit j'enregistre avec Marie-Paul Bell. Je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas tout son travail. Je me rappelais juste un titre qu'elle a fait il y a longtemps. Et il m'a dit, tu sais, il y a un titre, je suis sûre, tu vas aimer. Et j'écoute ça, je mets des écouteurs, j'ai adoré le texte, j'étais très émue.
Qui n'était pas une chanson pour vous ?
Qui n'était pas pour moi. Mais je me suis retrouvée dans ce texte et je pensais beaucoup à mon grand-père. Je pensais à lui. Et je lui ai dit, est-ce qu'elle l'a chanté ? Il me dit, non, elle l'a jamais chanté. Et je lui dis, est-ce que tu penses que je serais d'accord pour que je la chante? Il me dit, je ne sais pas, je vais lui demander. Et bien sûr, j'ai eu une réponse très positive de sa part. Et on a chanté ensemble au Café de la Danse.
C'est vrai.
Ouais, le duo était très, très touchant. Une belle personne, une grande artiste. Elle a une très, très belle voix. Et voilà, c'est un très beau texte qui peut résumer un petit peu ce qu'on peut sentir quand on est loin de chez soi, quand on est un petit peu déraciné, quand on est perdu dans une ville où on ne parle pas la même langue, où on n'a pas les mêmes traditions.
Et en même temps, c'est aussi un texte qui dit « Ce pays qui est chez toi, je m'y sens chez moi ».
Oui.
C'est aussi une manière de dire « Il y a des endroits où on arrive, et que ça plaise ou non, c'est aussi des endroits où on s'installe et où on est bien ».
Ben moi, je peux parler de mon cas parce que j'ai un très bel accueil en France. Je me sens bien et parce qu'il y a des gens qui ont tout fait pour que je m'y sente bien. Il y a des personnes comme ça qui sont très accueillants, des pays qui sont accueillants. Après, c'est pas ça dépend de l'expérience de chacun. Il y en a qui l'ont mal vécu.
Parce qu'il y en a qui ont été peut-être un peu moins bien accueillis.
Bien sûr.
On peut voir aussi que des situations extrêmement différentes se passent aujourd'hui. Et évidemment, lorsque vous chantez Pays Natal, dans votre voix, il y a quelque chose, une manière assez douce de chanter cet exil-là. Mais il pourrait résonner avec toutes les situations qui sont extraordinairement difficiles et violentes et qu'on peut observer tout à fait en même temps. Qui disent que la réalité est contrastée.
Oui, mais là aussi, là, quand on... Pour moi, ce qui était dur, par exemple, c'était la solitude. Quand je venais d'arriver en France, c'était un sentiment que je connaissais pas, et me sentir seule dans un autre pays, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une grande souffrance quand on est seul comme ça. Parce qu'en Algérie, on est tout le temps entouré, une grande famille, je connaissais pas ça. Je peux comprendre la solitude de certaines personnes, surtout des personnes d'un certain âge qui peuvent se retrouver seules.
Merci beaucoup, Souad Massi. On va terminer en écoutant Pays Natal, un extrait de votre disque Oumnia, sorti donc chez Bilif, Naïf, toutes les dates de concert sur le site internet. Merci beaucoup.
Merci.
C'était Valérie Lavalard à la prise de son ce soir, Élise-Marie Barré à la réalisation, Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Luc Vauvillier, Marianne Chassor et Lucie Riandet.
Pour sentir l'odeur du pain, au sésame ou au cumin, fallait faire la queue longtemps dans ce pays. Toute la ville n'est que banlieue, on se débrouille comme on peut. Il pousse entre les pavés des fleurs meurtries. Et pourquoi le mot maison là-bas rime avec prison? Et les voisins, on sent les gardiens. Ici je lis mon journal où je veux et c'est banal. Ici je n'ai plus peur au petit matin. Il n'y avait rien à regretter là-bas. Alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. Cathédrale et devant les bras zéros dans l'avenue. L'aveugle au violon très fort dans les rues que des vélos. J'entendrai toujours ces bruits qui continuent. Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient. Tous ces visages sans un nom dessus. Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée, car ils font comme s'ils m'avaient toujours connue. Il n'y avait rien à regretter là-bas,
Alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. Il n'y avait rien à regretter là-bas. Pourtant j'y pense encore, j'ai un peu mal. Même si je suis loin, si je suis bien chez toi, je n'ai pas quitté mon pays natal.